Chers frères et sœurs, comme vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous demande de prier particulièrement pour les chefs d'État et d'adresser à Dieu nos demandes. Mais que faut-il demander ? Qu'est-ce qui est le plus important à demander pour eux ? Cette question, nous trouvons la réponse dans la Bible, au deuxième livre des rois, quand Salomon devient roi. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux ». Il peut faire un vœu, voilà, pour lui et son pays. Si tu devenais reine d'un pays, qu'est-ce que tu demanderais pour ton pays ? T'as une idée ? On ne sait pas, hein, peut-être la prospérité, la paix, des puits de pétrole, des montagnes d'or. Eh bien Salomon, lui, il dit au Seigneur, « Moi, ce que je demande, c'est un cœur docile, capable de discerner entre le bien et le mal. » Voilà ce que Salomon demande. Ça touche beaucoup le cœur de Dieu. Parce que vous le comprenez, il ne cherche pas son propre intérêt. Il demande quelque chose de très beau et de très profond. Frères et sœurs, je risque une comparaison. Plus qu'une comparaison, c'est ce qu'on appelle une analogie en théologie. Une analogie, c'est quoi ? C'est une comparaison où il y a une ressemblance, mais où les dissemblances sont infiniment plus grandes que la ressemblance qui est soulignée. Par exemple, quand on dit « Père à Dieu », c'est une analogie, voyez, parce que ça dit quelque chose et en même temps, c'est complètement au-delà de ce que ça dit. Alors, je risque une analogie entre Salomon et cette petite femme que nous allons enterrer demain, la reine d'Angleterre. La moitié de la planète va regarder ça à la télé. C'est quand même impressionnant. Alors, les journalistes, habitués à des analyses parfois de grande profondeur, disent « Bah oui, c'est normal ». C'est parce qu'il y a du brillant, il y a du clinquant. Il y a du doré, ça brille, alors forcément ça fascine. Oui, c'est vrai, cette femme a brillé, elle a porté des parures magnifiques, elle avait des bijoux incomparables. Mais elle avait un trésor plus grand encore. Et elle en a témoigné. Elle a dit combien, pour elle, la parole du Christ a été un repère, une source dans sa vie. Et elle a dit aussi combien c'était une joie de l'adorer tous ensemble, le peuple des croyants. Voyez-vous, frères et sœurs, il me semble que cette petite reine nous a rendu deux services fondamentaux. Le premier, c'est qu'elle nous a rappelé qu'on a beau avoir plein d'argent, ça n'est pas une raison pour servir l'argent, pour passer sa vie à le servir. La sagesse populaire dit « Prends garde à ce que tu possèdes afin de n'être pas possédé ». Eh bien, elle nous a montré qu'il y avait quelque chose, un trésor encore plus précieux que ceux que l'on met dans les coffres forts, fût-il blindé, ce trésor, il est au fond des cœurs, il est dans les sacrements, il est dans la parole du Seigneur. Ce trésor, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est le premier service qu'elle nous rend. Le deuxième service, c'est qu'elle a reconnu durant toute sa vie sur la terre qu'elle n'était pas le sommet, qu'il y en avait un qui était plus grand qu'elle. Et elle l'a nommé, elle l'a reconnu, le Seigneur. Vous avez entendu dans le prophète Amos, le Seigneur dit quelque chose de bizarre. Il dit « Moi, le Seigneur, je le jure par la fierté de Jacob. » Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. Personne. Vous avez raison, c'est incompréhensible. On ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous savez, quand on jure, quand on est petit, des fois on dit « Je le jure sur la tête de mon père. » Ah, ou sur la tête de ma grand-mère, etc. Enfin, on invoque quelqu'un de plus grand que soi. Mais alors quand Dieu jure, qu'est-ce qu'il peut invoquer ? Eh bien, la fierté de Jacob, c'est quoi ? La fierté du peuple élu, c'est qui ? Ben, c'est le Seigneur. Donc en fait, il dit, je le jure par moi-même. Je le jure par le Seigneur. Il peut invoquer personne d'autre. C'est lui le plus grand. Eh bien ça, voyez-vous, cette petite reine en avait bien conscience. Le plus grand, c'est le Seigneur. Et ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il me semble que, voyez-vous, sur cette photo qui s'affiche, nous en avons eu un beau symbole. Le plus grand, c'est le Seigneur. La croix surplombe de haut cette petite couronne sur le cercueil royal. Le plus grand, c'est le Seigneur. Et pourquoi c'est décisif ? Pourquoi c'est important ? Parce que, frères et sœurs, si ceux qui nous dirigent pensent qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, ça devient difficile d'avoir un cœur docile. Docile à qui ? Docile à quoi ? Aux caprices, aux envies du moment, docile aux courbes des sondages, aux mouvements de la foule. Ça, on a connu, on a essayé, il y a même 2000 ans, c'est l'histoire de Pilate. Mais plus proche de nous, c'est aussi l'histoire d'Hitler, élu par son peuple. Voyez-vous, sur les sujets fondamentaux, ça ne va pas suffire de dire que la majorité le veut. La majorité peut se retourner contre l'homme, peut nous pousser au bord du précipice, au bord du néant. L'homme politique, bien sûr qu'il cherche le succès, parce que s'il n'y a pas de succès, il n'est pas élu, il n'y a pas d'action politique. Mais cette recherche du succès ne peut jamais passer devant la recherche du bon et du vrai, et du juste. Et pour que cela soit, pour que cela demeure, il faut qu'il puisse se référer à plus grand que lui. De quelle manière ? Nous, les chrétiens, nous n'avons jamais dit, jamais pensé que Dieu téléphonait en ligne directe au chef d'État en disant « Je veux une société chrétienne comme ci et comme ça ». Nous ne croyons pas à un droit révélé. D'autres traditions religieuses le portent, le défendent, pas nous. Nous, depuis le départ, nous disons « Les sources du droit sont la nature et la raison humaine ». Qu'est-ce que ça veut dire ? La nature d'abord, frères et sœurs, la nature comme ce grand livre que le Créateur nous laisse, où il nous indique ce qu'il souhaite, qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits. Mais voyez-vous, la nature, quand Dieu disparaît de l'horizon des hommes, ça devient quoi ? Ça devient un donné brut, un agglomérat de matière dont on peut user et abuser, et ça n'a rien à nous dire de particulier. Ça, c'est la vision positiviste de la nature qu'il a juste utilisée, épuisée et pour finir, pulvérisée, il faut bien le dire. Quand je vous parle de nature, frères et sœurs, je ne suis pas simplement en train de vous parler de la petite grenouille au bord de l'étang. La nature, c'est aussi la nature humaine, bien sûr, qui elle aussi est à découvrir, à entendre et à respecter, sans quoi on va finir par la pulvériser. Ça, c'est la première source du droit. Et la deuxième, c'est la raison humaine. Qu'est-ce que je veux dire ? La raison humaine, non pas comme une petite instance qui décide arbitrairement de ce qu'elle veut faire à tout instant, non, pas simplement la petite raison calculante qui est là pour rentabiliser, pour mesurer, pour vérifier. Non, bien plus que cela. La grande raison humaine, celle qui reconnaît qu'il y a en elle plus qu'elle-même, qu'il y a en elle un écho de la voix de Dieu, ce murmure ténu que l'on appelle la conscience. Ça, c'est la deuxième source du droit. Frères et sœurs, vous le comprenez, le défi est immense. Parce que si l'homme politique, si celui qui dirige s'imagine qu'il est la mesure de toute chose, qu'il peut tout décider de manière arbitraire, quitte à le faire valider par des majorités, alors il peut entraîner le monde au bord du chaos. C'est exactement ce qui s'est passé sous le nazisme. C'est la raison pour laquelle, quand on nous rappelle ce mantra un petit peu idiot, en disant « il n'y a rien au-dessus des lois de la République », c'est non seulement idiot de dire ça, mais c'est dangereux. Heureusement qu'il y a plus que les lois de la République. Parce que sous le nazisme, c'était des lois. Et heureusement qu'il y a eu des gens courageux pour se dire « attention, ça n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Il y a des lois qui peuvent se retourner contre l'humanité et qu'ils peuvent la pulvériser. » Il faut donc que nous soyons attentifs à la nature dans laquelle nous vivons et que nous sommes et que nous entendions le murmure de nos consciences et que nous ayons le courage, les uns et les autres, d'y être fidèles. Voilà, Seigneur, ce matin, nous te confions cette petite reine qui quitte cette terre. Merci pour toutes ces années de service à son pays. Nous te confions le Royaume-Uni, tous les pays du Commonwealth. Nous te confions aussi toute notre nation et ceux qui la dirigent. Donne à chacun d'entre nous un cœur docile, soucieux de ce qui est juste et bon, ardent à faire le bien. Amen.